les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Jan Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 11. Le soleil brillait au-dessus de sa tête, les rayons devaient peser 25 grammes. L'aïeul dit « J'emmerde tes ancêtres, soleil ». Les rayons pesaient plus de 25 grammes, projetaient une épaisse lumière verticale. L'aïeul dit « Tu tiens encore le coup, l'aveugle ?» Les rayons pesaient près de 30 grammes. C'était au zénith un soleil gras. L'aïeul palpa le ventre du chien. Il était mou comme un tas de boue. L'aïeul dit « Tu n'es pas aussi charnu que moi. Je te demande pardon, l'aveugle. » Puis il tâta son propre ventre. On aurait dit une feuille de papier. Il dit « Il faut absolument dormir, l'aveugle. Dors et quand tu te réveilleras, il y aura à manger. » Le chien se coucha le long des jambes de son maître, silencieux, le pelage ramifié, chacun des poils longs et fins s'achevant en fourche. L'aïeul s'efforça de trouver le sommeil, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait gronder son ventre. Il endura ainsi une nouvelle journée encore et s'endormit enfin tandis que le soleil glissait très lentement à l'ouest. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son visage rayonnait d'une expression souriante. Il prit appui sur le pilier de la cabane pour se lever. Voyant au loin le soleil se coucher, il estima le poids des rayons à moins de 20 grammes. Puis il s'adressa au soleil. « Crois-tu que tu puisses triompher de moi ? Sais-tu qui je suis ? Je suis ton aïeul, voyons. » Il pissa quelques gouttes face au soleil, tourna la tête vers le chien encore couché, lui dit « Lève-toi, j'ai dit qu'à ton réveil, il y aurait à manger, et il y aura à manger. » Le chien fit un énorme effort pour se lever. Il avait une partie du poil ébouriffé, la partie qui avait été en contact avec le sol, frisottée et exhalant une odeur de roussi. L'aïeul dit « « Devine ce que l'on va manger. » L'aveugle lui présenta un air perplexe. L'aïeul dit « Je te le dis, on va manger de la viande. » Il dit « Pour sûr, on va manger de la viande. » Après quoi, quelques rayons grésillèrent une dernière fois et disparurent derrière une montagne à l'ouest. En un clin d'œil, la chaleur s'atténua. Une légère brise se mit à caresser l'air comme une fine étoffe de soie. L'aïeul prit une bêche près du fourneau et se rendit au pied du champ. Il creusa un trou, rond comme un nid, de 50 cm de profondeur, avec des parois aussi abruptes qu'une falaise. Ensuite, il alluma un feu, fit bouillir une gorgée d'eau, prit une pincée de graines dans le sac de maïs et la jeta dans l'eau. Il versa le tout dans un bol qu'il déposa à l'intérieur du trou. Pendant ce temps, l'obscurité se faisait de plus en plus profonde. Dans le silence de la montagne, on l'entendait distinctement gagner du terrain. Une agréable fraîcheur humide montait du ravin. Elle encercla l'aïeul et le chien comme dans un halo de brouillard. Assis au pied de la cabane, il guettait le moindre bruit en provenance du trou creusé plus loin, laissant la nuit les recouvrir du noir profond des champs environnants. L'aïeul demanda « Qu'en dis-tu ? Les rats vont-ils sauter dans le trou ? Le chien colla une oreille sur le sol, exerça son ouïe fine. La lune brillait, sa clarté limpide baignait l'arête montagneuse. Dans le silence, le chien perçut le bruit de pattes de rat foulant les rayons lunaires. L'aïeul avança à tâtons jusqu'à l'ouverture. Dans un vacarme épouvantable, trois rats se battaient pour la nourriture. L'aïeul recouvrit immédiatement le trou d'une couverture, laissant les trois rats éberlués. Cette nuit-là, l'aïeul et son chien capturèrent 13 rats. Ils leur retirèrent la peau et les firent cuire à la faveur de la clarté lunaire. Les morceaux de chair exhalaient des effluves parfumées ou fétides. Ils s'assoupirent avant que le jour ne pointe et se levèrent alors que la matinée était déjà bien avancée. L'aïeul jeta les lambeaux de peau dans le ravin, puis il chargea la palanche sur ses épaules et partit vers la source, à 20 km de là. Par la suite, et pendant une assez longue période, l'aïeul et le chien menèrent une vie paisible et confortable, sans désagrément. Ils creusèrent quelques dizaines de trous préexistants, les arrondissant en forme de jarre, de sorte que l'ouverture soit plus étroite et les parois plus raides. Il suffisait qu'un rat saute dedans et il ne pouvait tout simplement plus en ressortir. Chaque nuit, l'homme rapportait du champ une bonne dizaine de grains qu'il broyait et plongeait dans l'eau bouillie, les laissant cuire jusqu'à ce qu'une bonne odeur se répande alentour. Alors, il versait la soupe de miettes de maïs dans un bol qu'il plaçait dans un trou. L'esprit tranquille, il prenait ensuite le frais dans la cabane avant de s'endormir. Pour sûr, il y aurait quelques rats le lendemain, peut-être même une bonne dizaine, qui pousseraient de petits cris plaintifs à l'intérieur du trou. Ils auraient de quoi manger un ou deux jours. L'aïeul pouvait attendre encore pour se rendre à la source. Le temps s'écoulait dans le plus grand calme, pareil à une mer d'huile. Sous son abri de natte, le vigoureux maïs continuait à pousser. Au bout d'une quinzaine de jours, le sommet de la tige se mit subitement à gonfler. Un épi gros comme un pouce se développa à vue d'œil. Lorsqu'il était inoccupé, l'aïeul se tenait souvent là, devant l'épi, à bavarder avec le chien. Il disait « L'aveugle, qu'en dis-tu ? L'épi sera-t-il demain aussi gros qu'un rouleau à pâtisserie ?» Voyant son maître content, le chien se mettait à lui lécher la jambe. L'aïeul caressait le dos du chien, disait « Un mois et 10 jours séparent le plein automne du moment où l'épi est apparu. Comment pourrait-il mûrir en une nuit ?» Parfois, elle disait « L'aveugle, regarde comment se fait-il que l'épi soit à peine aussi gros qu'un doigt ?» Le chien regardait l'épi. L'aïeul disait « Tu es aveugle, comment peux-tu voir quoi que ce soit ? L'épi est plus gros que mon pouce depuis longtemps. » Un jour, l'aïeul revint avec la palanche chargée d'eau. Il arrosa la culture, puis se mit à creuser avec la houe. Tout à coup, il vit que l'épi avait sorti une sorte de pompon blanc et poudreux, duveté, on aurait dit une petite main de bébé. Il resta un moment immobile devant l'épi, étouffa un rire et dit « C'est bientôt le plein automne, l'aveugle. Est-ce que tu le vois ? C'est bientôt le plein automne. » Ne voyant plus le chien, il tourna la tête pour le chercher. Il le vit près du ravin, en train de mâchonner des lambeaux de peau de rat capturés la veille. Une odeur fétide se répandait tandis que les poils tombaient de sa gueule, voltigeant alentour. L'aïeul dit « Ce n'est pas ça, l'aveugle ?» Le chien ne répondit pas, se dirigea près du trou à rat. L'aïeul le suivit jusque-là, son cœur fit un bond, lorsqu'il ne vit qu'un seul petit rat pris au piège. Depuis 15 jours, C'était la première fois qu'il en était tombé si peu. 2 jours auparavant, 5 rats avaient été pris au piège. La veille, 4, mais un seul ce jour-là. Le jour même, l'aïeul creusa plusieurs pièges à d'autres endroits sur l'arête montagneuse, y déposa quelques graines écrasées. Le lendemain, de bon matin, il y retourna pour chercher son gibier. La moitié des trous étaient vides, et les autres ne contenaient qu'un ou deux rongeurs. L'époque où plusieurs rats, voire une bonne dizaine, sautaient dans un piège, était bel et bien révolue. Ces 15 derniers jours passés dans l'abondance étaient maintenant derrière eux. Désormais, l'aïeul se rendait seul sur l'arête montagneuse, mesurait à l'aide de sa balance le poids des rayons solaires qui augmentaient chaque jour. Debout, face au terrible soleil, il éprouvait un sentiment d'épouvante, sentiment qui, à peine né, prenait l'ampleur d'une forêt, croissait encore jusqu'à devenir immense, couvrant l'étendue des monts et des vaux. Captura un rat qu'il ramena, lui retira la peau et le fit cuire, puis il l'emballa dans du tissu, tapota doucement la tête du chien, lui demanda de garder le champ et prit la route. Il emprunta les chemins qui se présentaient à lui, en suivit les tours et détours, et marcha ainsi toute une matinée. Il traversa 5 villages, après quoi, arrivé sur la plus haute arête montagneuse, il s'arrêta. Pendant un moment, il affronta le soleil du regard, tendit la main, paume tournée vers le haut, pour soupeser la lumière, poussa un soupir, puis s'assit à l'ombre d'un rocher pour se reposer un peu au frais. La paroi rocheuse se dressait, verticale comme un pan de mur. La terre s'effritant sous la chaleur sèche, des morceaux se détachaient du sommet, s'égouttant le long de la pique. Devant l'aïeul, les champs en pente étaient sillonnés, lézardés par la sécheresse. Il porta son regard plus loin. La chaîne montagneuse ondulait. Les cimes enflammées s'élevaient plus ou moins hautes, dans le ciel embrasé à l'infini, incandescent, si bien que même un léger coup d'œil suffisait à provoquer une douleur à la commissure des paupières. L'aïeul demeura assis un moment à l'ombre chaude et dorée du rocher. Il prit dans son sac le paquet en tissu, l'ouvrit, s'aperçut que le morceau de viande fraîche et tendre qu'il y avait placé, cette chair alors aussi rouge et brillante qu'une carotte tranchée, avait déjà pris une teinte noirâtre, alors qu'une demi-journée seulement s'était écoulée. On aurait dit un morceau de boue sale. Il en huma l'odeur. Il ne restait plus rien du parfum de la cuisson, mais une puanteur grise à l'intérieur de laquelle s'était encore glissée une odeur de moisissure. Il avait marché tellement longtemps, la faim lui tenaillait le ventre, il n'avait plus une once de patience. Il détachait un morceau de cuisse pour le porter à la bouche lorsqu'il aperçut de petits grains blancs comme de petits grains de riz gigotés dans la chair. Il eut un haut le cœur, voulut jeter le morceau, tendit la main, mais la ramena aussitôt. Il ferma les yeux, ouvrit grand la bouche, y fourra le morceau entier, en mastiqua d'abord les 2/3, puis le reste, et pour finir avala le tout. Rouvrant les yeux, il vit 2 asticots tomber sur le sol brûlant. Un instant après, ils étaient complètement desséchés. Dans les ténèbres, l'aïeul retourna à son champ. Cette nuit-là, assis auprès de la culture, il ne ferma pas l'œil. Malgré les mouvements affectueux du chien, il s'enferma dans un profond mutisme. Il contempla le ciel, et regarda l'épi de maïs se teinter de rouge jusqu'à la pointe du jour. Alors il se redressa et, foulant seul les premiers rayons purs de l'aurore, se dirigea vers le village. C'était un espace vaste et dénudé que celui de la chaîne montagneuse, sur lequel régnait de nouveau le silence. Le chien grimpa sur l'arête à la recherche de l'aïeul, fit quelques pas, puis revint s'installer au pied de la culture, afin de la garder jusqu'à la mort. Il attendit le retour de l'aïeul. L'aïeul revint à midi. Il rapportait du village une jarre brune qu'il faisait rouler devant lui. Il la redressa pour l'installer à côté du plan. Il grimpa sur l'arête montagneuse, captura dans un champ un gros rat qu'il ramena par le collet jusqu'à la cabane. Là, il l'égorgea avec un couteau de cuisine, laissant le sang couler dans un bol. Ensuite, il donna la peau du rat à l'aveugle, fit chauffer le sang et cuire la chair de l'animal. Il but le premier et enveloppa la seconde. Après quoi, il chargea la palanche sur ses épaules et partit. Il voulait ramener suffisamment d'eau pour remplir la jarre. Il fit les comptes. Sur quelques 30 trous creusés un peu partout, il devait rester au total 9 rats à manger. En partageant un rat par jour avec l'aveugle, ils auraient de quoi tromper leur faim pendant 9 jours. Dans 9 jours, tout au plus, ils seraient également à court de grains. Il ne restait plus rien dans les champs, plus une seule des graines que les villageois avaient semées quelques mois auparavant. Il n'y avait plus rien non plus au village. C'était presque le plein automne. Le poids de la lumière augmentait de jour en jour. C'était justement la période durant laquelle la culture avait le plus besoin d'eau et de substances nutritives. Il fallait qu'en l'espace de 9 jours, l'aïeul remplisse la jarre. Alors, l'aveugle et lui pourraient bien rester assis à crever de faim, le maïs aurait de quoi continuer à pousser et l'épi pourrait mûrir. L'aïeul marchait seul sur l'épaisse poussière du chemin de l'arête montagneuse. De violents faisceaux de lumière venaient frapper son corps les uns après les autres. Il sentit l'odeur de sa barbe roussie. Il plaça le rat dans un seau qu'il recouvrit de son chapeau de paille. La sueur lui coulait du front. Il l'essuyait avec ses doigts qu'il léchait ensuite. Sentant ses genoux moites, il s'accroupit pour en absorber la transpiration. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas perdre l'eau de son corps, pour l'empêcher de s'évaporer. Heureusement, chaque jour, il partait avant l'aube vers le nord. Lorsque la lumière éclairait le sommet de la montagne, il n'était plus qu'à 2 ou 3 kilomètres de la source. Alors seulement, il se mettait à suer de tout son corps et s'efforçait durant le reste du trajet d'absorber sa transpiration. Une fois le soleil au zénith, il atteignait la source. Il buvait à satiété, mangeait la viande de rat, emplissait les 2 seaux qu'il chargeait de nouveau sur la palanche et prenait la route du retour. Quand il avait soif, il se penchait au-dessus d'un seau et buvait. À ce moment-là, la lumière pouvait peser 50 grammes, en tout cas au moins 40 ou 45. Par intervalle, il entendait le murmure de sa propre sueur. Alors, il ne haïssait plus le soleil, ne se plaignait plus de la sécheresse. Simplement, les jambes tremblantes, il ne cessait de se demander à lui-même « Suis-je si vieux ?» Au village, il y a bien eu un vieillard qui est devenu père à 70 ans, et moi je ne pourrais plus porter une palanche. Mais ses jambes tremblaient tant qu'il ne parvenait plus à avancer. Il ne lui restait plus qu'à poser les seaux à terre, s'arrêter un moment pour reprendre son souffle et se pencher sur l'un d'eux pour étancher sa soif. Pour faire le compte, chaque fois que l'aïeul faisait ce trajet dans le but de ramener 2 seaux d'eau, sur 20 kilomètres, il avait besoin de s'arrêter plus de 20 ou 30 fois. À chaque fois, il lui fallait également boire. Une fois qu'il avait bu, il transpirait. Ayant transpiré, il buvait de nouveau. Finalement, lorsqu'il était enfin de retour sur les 2 seaux, il n'en restait plus qu'un qui soit encore plein.